France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous. Ce n'est plus une question de génération ni de moyens d'accès. Les algorithmes balaient nos frontières, bouleversent nos habitudes et imposent des défis inédits, qu'ils soient d'ordre sécuritaire, économique ou même sanitaire. TikTok est aujourd'hui l'application la plus téléchargée dans le monde, devant Facebook, YouTube, Instagram et autres WhatsApp. Contenu en plusieurs langues, vidéos courtes qui épousent et amplifient les goûts des utilisateurs, divertissement, promotion, information, désinformation mêlée, le phénomène est devenu universel. Seulement voilà, TikTok est chinois. Paradoxe de la mondialisation, la société mère ByteDance, immatriculée aux îles Caïmans, paradis fiscal, compte parmi ses actionnaires plusieurs fonds d'investissement américains et japonais. Il n'empêche, basée à Pékin, ByteDance et ses diverses filiales sont soumises, comme leurs congénères chinois, à la loi de sécurité nationale et aux contraintes que le régime de Xi Jinping n'a cessé de durcir, l'espionnage comptant désormais au premier rang des devoirs civils de ses citoyens. 15 millions de Français utilisent TikTok. Aux États-Unis, ils sont 170 millions, soit deux tiers des jeunes Américains. Comment sont utilisées leurs données? Qui y a accès? Quels contenus peuvent-ils être privilégiés ou fabriqués en fonction de l'agenda de Pékin? À Washington, la semaine dernière, la Chambre des représentants a voté une loi pour contraindre le groupe chinois à vendre TikTok dans les 5 mois à une société, si possible américaine, sous peine d'interdiction sur le territoire. Plusieurs obstacles politiques et juridiques restent à franchir, mais l'épisode révèle à quel point l'inquiétude grandit aux États-Unis comme en Europe. Quel est donc le rôle de TikTok dans la stratégie chinoise d'influence, sinon de pénétration des esprits? Élections présidentielles américaines, élections européennes, comment empêcher l'ingérence? Comment concilier protection de l'information et liberté d'opinion? Quelle réglementation au niveau national comme au niveau européen? Comment, dans nos démocraties, encourager une sorte de citoyenneté numérique? C'est ce que nous allons explorer ce matin. Grâce à vous, Laurence Allard, vous êtes maîtresse de conférences en sciences de la communication, chercheuse à Sorbonne Nouvelle et vous enseignez à l'université Lille 3. Sébastien Jean, vous enseignez l'économie au Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM, et vous êtes directeur associé de l'initiative Géoéconomie-Géofinance de l'IFRI. Benoît Loutrel, vous êtes membre de l'ARCOM, donc l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique française. Vous enseignez à Sciences Po à Paris. Je suis ravie d'accueillir Emmanuel Linco, professeur à l'Institut catholique de Paris et chercheur associé à l'IRIS, et bien sûr Philippe Lecor, chercheur à Asia Society, professeur affilié à l'ESSEC. Philippe, je commence avec vous, vous rentrez de Washington. Pourquoi cette poussée de fièvre de la Chambre des représentants américaines qui, le 13 mars dernier, a donc voté? Et là, le consensus entre républicains et démocrates est très, très étendu, a voté cette loi.
Oui, bonjour Christine. Eh bien, effectivement, le vote est sans appel. 352 représentants contre 65. Donc, évidemment, ce n'est qu'une des deux chambres du Congrès américain. Mais ce vote reflète, je pense, le consensus qu'il y a à Washington, notamment au Congrès, hein, à Capitol Hill, sur le fait que la Chine est un concurrent, est un adversaire, et notamment ce texte que j'ai lu attentivement spécifie que la loi interdit la distribution de médias sociaux par des pays, si vous voulez, considérés comme ennemis. Donc les pays en question, c'est la Chine, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord. Donc ce sont des pays qui sont mentionnés, sauf si le président américain reconnaît par un processus interne, un petit peu mystérieux, que le média en question n'est plus contrôlé par un adversaire. Et donc, en fait, s'il y a un investissement par un groupe américain, alors on sait que l'ancien secrétaire au Trésor de Donald Trump, Steven Mnuchin, est intéressé par éventuellement la mise en place d'un consortium. Mais pour l'instant, si vous voulez, la grande question, c'est de savoir si le texte va passer au Sénat.
L'ironie, Philippe, c'est que le président Biden lui-même, dans l'espoir d'atteindre les jeunes Américains, a utilisé TikTok il n'y a pas si longtemps. Et il faut dire que l'impact est massif. 2/3 des jeunes Américains, 1/3 des adultes aux États-Unis s'informent. Et pas seul, il n'y a pas que le divertissement, hein, il y a de l'information ou ce qui en tient lieu, plus 7 millions de petites entreprises qui utilisent ce réseau.
Oui, c'est une explosion majeure. Effectivement, l'ironie, c'est que c'est maintenant effectivement un média social chinois qui a l'air de dominer la scène, alors que l'Amérique est évidemment à l'origine de la création des Facebook, Twitter et autres Google. Donc la question vraiment est de savoir si dans la perspective des élections de novembre, qui évidemment seront très tendues, la campagne l'est déjà, entre deux candidats qu'on connaît, qui sont tous les deux d'ailleurs d'un certain âge, hein, Donald Trump et Joe Biden, Trump n'ayant pas encore utilisé TikTok, mais enfin son adversaire, oui. La question est de savoir, surtout pour Biden, s'il peut se permettre de se mettre à dos des millions de jeunes électeurs en dessous de 18 ans ou qui vont devenir électeurs ou qui le sont déjà, tout ça pour une société qui finalement n'est pas une société d'État chinoise, ce n'est pas non plus Huawei, vous savez, le fabricant de d'infrastructures télécom qui est un peu voué aux gémonies un peu partout, en tout cas en Occident. C'est une société privée que d'ailleurs moi-même j'avais visité à Pékin, qui est prête, qui garantit le fait qu'elle n'est pas en contact avec le Parti communiste chinois. Et en même temps, la plupart des Américains qui utilisent TikTok ne sont pas politisés, si vous voulez.
Oui. Donc, je vous interromps parce que il faut revenir avec vous, Emmanuel Linco, sur l'identité de la société mère de TikTok qui s'appelle ByteDance, dont l'un des deux fondateurs, qui a une quarantaine d'années, s'appelle Zhang Yimin. Il en contrôle encore lui-même 20%. Et ByteDance fait partie de ces sociétés qui sont véritablement dans l'économie chinoise dans une zone grise. Dire qu'elle n'est pas sous le contrôle direct du régime est toujours difficile à mesurer. Expliquez-nous, Emmanuel, la manière dont fonctionne ByteDance en Chine même et à l'extérieur de la Chine.
Oui, alors, je souscris à tout ce que vient de dire Philippe. L'enjeu majeur, évidemment, pour la Chine y compris, c'est d'avoir su créer une interdépendance par rapport aux Américains. Et évidemment, l'impact peut être important en termes électoraux, notamment. Mais pour répondre à votre question, ByteDance, certes, est officiellement une entreprise privée, mais a créé, je dirais, deux alternatives. Douyin, tout d'abord, qui est exclusivement destiné au marché chinois, et TikTok pour l'étranger. Et sur Douyin, notamment, il n'y a absolument aucune émission, aucun reportage possible sur la question des Ouïghours, sur la question de la dissidence à Hong Kong, ou tout sujet contrevenant évidemment à l'idéologie du Parti communiste chinois. Et TikTok, c'est là précisément toute la crainte des gouvernements occidentaux, y compris en France, pourrait être être un cheval de Troie, malgré tout, utilisé par Biden, qui, dans toute la configuration de toute façon liée à l'audiovisuel, aux réseaux sociaux, etc., depuis la Chine, est contrôlé, évidemment, par le Parti communiste chinois. C'est-à-dire qu'il y a un effet de brouillage assez grossier qui donne l'illusion que TikTok n'est pas contrôlé par le Parti communiste chinois, mais sa maison mère l'est. Évidemment. Donc, cela signifie que la Chine a réussi à développer des outils divers et variés, à la fois pour son propre marché, pour l'étranger également. Et tous ces médias nous renvoient évidemment à une particularité même du régime communiste chinois, qui est un régime, on le sait, dictatorial, mais dictatorial d'un nouveau type, puisqu'il s'appuie sur une technostructure absolument inédite, que j'ai pu qualifier ici et là de cybercrature. Et on le sait précisément, l'utilisation massive des algorithmes permet notamment la surveillance des flux des personnes, y compris bien sûr à l'étranger. C'est là que réside le danger d'une surutilisation de TikTok et peut-être aussi une forme d'aliénation, puisque, comme cela a été rappelé, c'est un public jeune essentiellement qui utilise TikTok. Or, ce qui me paraît tout à fait intéressant de rappeler, c'est que Xi Jinping a promulgué une loi ne permettant pas aux jeunes chinois de recourir aux réseaux sociaux plus de 2 heures, je crois me souvenir, par semaine, alors que TikTok inonde la jeunesse occidentale. Donc on se demande s'il n'y a pas aussi une forme de guerre de l'opium idéologique à rebours qui est indirectement mise en œuvre par le Parti communiste chinois via TikTok précisément.
Sébastien Jean, il y a à la fois le problème de l'accès à ces gisements gigantesques de données dans le monde entier, à l'extérieur de la Chine, encore une fois, puisque Douyin, comme vient de le dire Emmanuel Nakou, n'a pas du tout les mêmes contenus, évidemment, que TikTok. Mais la Chine est de fait, et depuis pratiquement le début de l'ère numérique, découplée du système occidental. Ils ont édifié ce qu'ils ont appelé, d'ailleurs, la grande muraille numérique.
C'est vrai, c'est le paradoxe de l'économie mondialisée numérique d'aujourd'hui, c'est que par certains aspects, le numérique est un domaine dans lequel un découplage réel a déjà été mis en œuvre depuis un certain nombre d'années. L'Internet chinois ressemble assez peu et l'écosystème d'application à ce qu'il est en dehors de Chine. D'ailleurs, pas seulement en Chine. Hein, maintenant, aujourd'hui, l'internet russe est également une espèce à part dans le monde. Donc, c'est un domaine dans lequel progressivement, contrairement à ce qu'on avait cru initialement, d'ailleurs, hein, les remarques ironiques de Bill Clinton sur l'impossibilité de
coller un chewing-gum sur du plastique.
Absolument. Et donc, il ironisait sur le fait de dire bon courage si vous voulez contrôler Internet. Ben, en fait, oui, on peut contrôler Internet, en tout cas au niveau des frontières. Et c'est ce que font aujourd'hui les Chinois. Donc, ça pose beaucoup de questions. Ce qu'on a vu, c'est que c'est vraiment, je crois, très caractéristique de la situation actuelle qui à la fois est caractérisée par une très forte intrication interdépendance et puis par des rivalités de puissance très fortes avec le numérique qui est très puissant. Donc il y a une question industrielle, c'est celle de la réciprocité. Pourquoi, comment, je veux dire, en termes de commerce international, on a vraiment l'habitude de considérer que la réciprocité est une dimension structurante de ce que peut être un équilibre. Ben là, on n'est vraiment pas dans une situation de réciprocité, c'est-à-dire que les Chinois interdisent les principales plateformes américaines et aujourd'hui, l'Occident, en tout cas, comme vous le dites, est un peu, en tout cas, subi ces assauts. TikTok, c'est intéressant parce que c'est la première qui vraiment a un succès majeur en Occident. C'est pour ça que le problème se pose.
Mais on voit aussi avec Chine et Temu, par exemple, il y a une loi sur la fast fashion, comme on dit en français, qui vient d'être passée à Paris. Mais cette absence de réciprocité commerciale n'empêche pas les Chinois de dire ce sont des méthodes de voyous oui. que de menacer TikTok.
Oui, je dirais que le double langage est assez coutumier. Côté chinois, on se rappelle de la façon dont Xi Jinping, au moment de la prise de pouvoir de Donald Trump en janvier 2017, à Davos, avait fait un grand discours sur le libre-échange. Bon, il y avait quand même un double langage assez clair là-dessus, qui est une façon de retourner contre les Occidentaux leur propre, de les mettre face à leurs propres contradictions aussi. Mais bon, du point de vue chinois, c'est assez. Je pense qu'il y a quand même une certaine hypocrisie dans ce.
Mais Sébastien, quelques chiffres quand même. L'évaluation de TikTok, ça donne par le marché américain, 150 milliards de dollars. Bon, un délai, si j'ai bien compris le texte de la Chambre des représentants, de 5 mois, et évidemment une société américaine, parce que il y a le protectionnisme américain qui est quand même en plein épanouissement, si j'ose dire, et Biden s'est efforcé, enfin TikTok, s'est efforcé de donner des gages. Oui. En disant, mais non, les données sont stockées en Irlande, et puis on paye Oracle, qui est donc une société américaine. Pour abriter les données américaines. Tout ça, c'est quoi? C'est du window dressing, comme on dit en anglais?
Oui, alors, ça, c'est les représentants. Il n'est pas du tout sûr que la loi sera votée au Sénat ensuite. Et il y a un enjeu industriel fort. C'est indubitable. Justement, c'est le grand succès chinois. Ça ne sera pas forcément le dernier. On le voit avec les autres sociétés que vous mentionniez. Sachant que derrière, il y a aussi des enjeux en termes de pouvoir d'influence, d'immixion dans le débat politique américain et qui sont également très forts. Donc oui, il y a ces trois aspects. Sur l'aspect peut-être industriel, ce qui me semble assez important de comprendre aussi, c'est que on touche au cœur de ce qui est la puissance moderne américaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la superpuissance industrielle, c'est clairement la Chine. Où est-ce que les États-Unis sont forts sur l'innovation technologique de la plus poussée et sur le numérique. C'est vraiment le point fort, le bastion de leur force internationale. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que c'est aussi très choquant pour les États-Unis aujourd'hui de voir qu'ils sont battus même sur leur propre terrain, d'une certaine façon, même si TikTok, c'est perce, mais ça n'est pas au niveau des plus grandes plateformes américaines. Mais malgré tout, ils sont dans la top league, j'allais dire.
Hein, donc c'est très frappant. Et ils sont devenus, au début de cette année, me semble-t-il, Benoît Loutrel, je rappelle que vous êtes membre de l'ARCOM, spécialiste depuis longtemps de l'économie numérique, et donc TikTok est devenue l'application la plus téléchargée. Mais il est vrai que pour nous autres Européens et Français, on s'est habitué en quelque sorte à utiliser du matin au soir des applications américaines. Notre force à nous, on n'a pas de géant en technologie numérique, mais on sait réglementer.
On n'a pas encore de géants. Et on en a quelques-uns quand même. Pensez à des acteurs comme Spotify. C'est un acteur européen et qui est un des nouveaux géants. Mais effectivement, on fait face dans le numérique à une économie qui est globalisée. Et donc la problématique pour l'Europe, c'est d'avoir des acteurs qui sont issus du monde américain, qui est un monde peu régulé, forme de capitalisme sauvage. Et de l'autre côté, maintenant avec TikTok, des acteurs qui viennent au contraire d'une autre forme de capitalisme avec un contrôle étatique, mais dont là, je dis contrôle et pas régulation, parce que la finalité de ce contrôle étatique, on voit bien, c'est quasiment accessoire cette histoire de restriction de 2 heures d'usage pour les jeunes. La vraie finalité du contrôle étatique en Chine ou en Russie, c'est la perpétuation de ses pouvoirs. Et donc l'Europe construit une troisième voie, et une voie qui n'est pas médiane, une voie qui est au contraire une affirmation de dire on veut concilier un modèle où on s'ouvre au numérique, parce qu'il y a un réservoir d'innovation phénoménale et donc de progrès social, mais où on concilie de manière stricte la protection des droits fondamentaux. Et c'est ça la construction de la voie européenne. Et de manière intéressante, c'est intéressant de comprendre pourquoi on n'a pas cette réaction vis-à-vis d'un TikTok comme aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, ils n'ont ni le règlement général sur la protection des données, ni le règlement sur les services numériques. Donc, ça ne les dérange pas, ou ils l'acceptent quand il s'agit de leurs entreprises, mais quand ils font face à TikTok, brutalement, ça les dérange.
Mais est-ce que nous autres consommateurs en France, en Europe, nous sommes conscients de ces réglementations. En fait, on en sait, enfin, on sait que l'Union européenne a avancé. D'abord, il me semble qu'il y a un an tout juste, je crois que c'était en mars l'année dernière, la Commission européenne a interdit à ses fonctionnaires de télécharger TikTok sur les téléphones de fonction. Même chose en France, d'ailleurs, et dans d'autres pays européens. Néanmoins, il y a déjà eu des amendes à l'encontre de TikTok pour infraction, en particulier à tout ce qui concerne les très jeunes utilisateurs de TikTok.
Alors, on n'est pas encore au niveau des amendes, mais effectivement, on a construit une démarche unique en Europe et qui est encore peu connue. C'est le on connaît tous le règlement général sur la protection des données.
On devrait, alors, oui.
On devrait. On découvre le règlement sur les services numériques. Il a été adopté en 2022. C'est un renforcement de la construction européenne. On met en place un réseau de régulateurs avec la Commission européenne au centre dans un rôle de régulation soutenu dans chaque État membre par un régulateur national. En France, ça sera l'ARCOM. Et qui commence à se saisir. Et donc, aujourd'hui, on voit, la Commission européenne, dans les trois derniers mois, a ouvert deux procédures formelles, potentiellement pour infraction au règlement. La première vis-à-vis de X, Twitter, et la deuxième vis-à-vis de TikTok. Ce qui vous donne bien la ligne en disant l'Europe veut affirmer il n'y a pas de capitalisme totalement désinhibé à la Elon Musk possible en Europe, et un capitalisme chinois doit aussi respecter les standards européens.
Et le motif dans le cas de TikTok ?
Dans le cas de TikTok, vous avez plusieurs motifs. L'un est la protection de l'enfance, et l'autre est de mettre des limites au capitalisme et à sa capacité à nous enfermer dans un usage frénétique. Et c'est ce qui explique le succès de TikTok. Et on voit que TikTok, par le jeu concurrentiel, est en train de déteindre sur le comportement de Facebook, d'Instagram et de YouTube. Et donc la Commission européenne ouvre la procédure en disant on peut mettre des limites au design qui provoque l'addiction des usagers. Et la dernière chose qui est importante, la Commission européenne ouvre aussi la procédure en disant mais les chercheurs, la société civile, sont-ils bien en mesure d'observer TikTok librement dans la perspective des élections européennes? Et ça participe à la protection de l'élection européenne. Surveiller l'espace informationnel, vérifier qu'on n'a pas d'ingérence étrangère, c'est un effort partagé entre l'État, c'est Viginum en France, et la société civile et le monde académique.
Laurence Allard, vous êtes chercheuse en sciences de la communication. Expliquez-nous donc comment TikTok parvient à être aussi efficace et aussi conquérant, encore une fois, que ce soit en France, aux États-Unis, encore une fois, c'est devenu massif, mais c'est massif dans le monde entier, avec encore une fois des contenus qui en Chine sont très différents. Pourquoi est-ce que ça marche aussi bien ?
Ouais, en effet, c'est une application qui est la plus captivante de toutes les applications, notamment avec un temps passé par utilisateur dans le monde et en France qui est extrêmement important, puisqu'en l'utilisateur moyen passe 34 heures par mois sur TikTok dans le monde, et en France, on est à 38,38 chaque mois par utilisateur, donc c'est et quasiment en moyenne 95 minutes par jour. Donc en France également, si on prend les chiffres de We Are Social. Donc on voit que c'est une application qui est captivante, elle captive l'intérêt, on y consacre beaucoup d'émissions. Donc il y a
Et pourquoi qu'est-ce que les algorithmes chinois ont de spécifique en termes de ce qu'il faut bien appeler une forme d'addiction?
Alors, disons que c'est déjà, bon, il y a l'algorithme, mais c'est surtout la structure des contenus. Et donc quand on entend l'ARCOM, oui, parler de remettre en cause le design de l'attention, c'est à la fois, bien sûr, une démarche intéressante, mais elle est compliquée parce qu'elle va s'attaquer à la structure même formelle en fait, de TikTok. Et TikTok va proposer des boucles vidéo, donc ça crée un effet de répétition visuelle et un effet de répétition sonore, parce que c'est une application aussi qui a mis le son en avant, et donc on va entendre en boucle sans fin des slogans, des expressions, des faux faits, et on va regarder sans fin également des images. Et donc, il y a un effet, en effet, de capture de l'attention qui a rarement été atteint par cet effet de boucle. Voilà, on est pris dans cette boucle et l'algorithme lui-même va renforcer justement cette boucle en une bulle. Et en effet, donc, il y a une capture assez, assez radicale, assez maximale, que d'autres applications n'avaient pas atteinte, puisque c'est la dernière née, donc elle a évidemment retenu toutes les bonnes recettes des autres réseaux sociaux pour capturer au mieux l'attention. Et donc cet algorithme, oui, il est très très personnalisant, puisqu'il va utiliser justement les informations issues de toutes les interactions des utilisateurs sur les vidéos aimées, partagées, comptes suivis, commentaires publiés, contenus créés, et tout un ensemble d'informations des vidéos même, les légendes, les tags, les sons qui sont appréciés. Donc l'algorithme est très renfermant puisque très personnalisant et donc en effet va resservir des contenus que l'utilisateur semble apprécier. Donc in fine, vous êtes assez ramené à des centres d'intérêt pas forcément renouvelés. Et donc comme il y a cet effet ritournelle, il y a cet effet de martèlement, vous pouvez être très très vite soumis à des effets de propagande, en fait. C'est un peu problématique. Mais d'autre part, puisqu'on est dans une émission autour de la géopolitique, il faut avoir en tête que c'est aussi une scène, bien sûr, de divertissement, beaucoup de ventes de produits hein, par des influenceurs dont on crée des fermes à contenu. Mais il y a aussi des mobilisations hein, qui sont connues de par le monde grâce à TikTok, dans lequel justement on va faire savoir des problématiques en termes de liberté, des problématiques en termes de géopolitique. Donc il y a aussi une dimension de mobilisation internationale qui est pas inintéressante également à souligner. Ce n'est pas que finalement du renfermement publicitaire. Il y a aussi une ouverture vers d'autres causes qui sont finalement connues via ces boucles paradoxalement qui nous renferment mais qui nous ouvrent.
Un exemple de ces causes qui sont promues ou qui sont mises en avant sur TikTok, avec beaucoup de contenus qui sont prétendument amateurs.
Via la reprise, par exemple, de certaines vidéos, la lutte des jeunes femmes iraniennes a été connue. En partie sur la scène TikTok, il y a également tout ce qui se passe autour du tag Digital Intifada, qui est aussi une façon de rendre compte, alors de façon bien sûr ultra-partisane de part et d'autre, hein, mais des problématiques entre Palestine et Israël. Donc il y a aussi finalement le monde hein, qui tourne dans ces boucles de malheur sur TikTok.
Emmanuel Linco, quel peut être le rôle de TikTok? Et vous avez bien expliqué dès le début que le Douyin, qui est donc la même application avec les mêmes systèmes d'algorithmes, n'a pas du tout les mêmes contenus pour la population chinoise elle-même. Mais quel peut être le rôle de TikTok dans ce que les manuels de l'armée populaire de libération chinoise appellent la guerre cognitive, avec cette idée que la guerre est devenue avant tout la guerre de l'information?
C'est en effet un volet extrêmement important qui explique sans doute les très grandes réticences américaines, parce que on le sait grâce à l'écrit de deux auteurs chinois, Xiao Liang notamment, qui s'intitulait La guerre hors limite, traduit comme tel en 1999 en français, que les Chinois, dès la deuxième guerre du Golfe en 1991, se sont inquiétés de leur propre retard sur le plan militaire, qu'ils sont en train, on le sait, de rattraper à vitesse grand V, dans le domaine de l'aéronaval notamment. Mais l'un des vecteurs permettant aux Chinois de venir à un certain équilibre de force par rapport aux États-Unis et au monde occidental, c'est dans le recours à des techniques de combat très anciennes, peut-être aussi anciennes que la Chine. On pense évidemment à Sun Tzu et l'art de la guerre, c'est-à-dire une guerre asymétrique, une guérilla, mais une guérilla appliquée au monde postmoderne et par le recours précisément au cyber. Donc on le sait, la Chine, mais aussi la Corée du Nord d'ailleurs, ont recours systématiquement à des cyberattaques. Les Taïwanais sont victimes quotidiennement de millions d'attaques émanant de la Chine communiste. Et TikTok peut être utilisé comme tel, bien sûr, pour intoxiquer sur le plan idéologique un adversaire que l'on voudrait faire plier à sa cause. Et le pays qui est à l'avant-garde de cette très grande réticence à l'encontre de TikTok, il faut le rappeler, c'est l'un des grands voisins de la Chine, à savoir l'Inde, qui a interdit précisément l'utilisation par les concitoyens indiens en 2020 de TikTok. Donc ça, c'est tout à fait intéressant parce que évidemment, il y a une dimension stratégique dont il faut tenir compte et qui est peut-être aussi importante que des méthodes de polémologie beaucoup plus conventionnelle en définitive.
Et il y a aussi l'adoption par les services chinois des méthodes russes ou plus précisément soviétiques.
Oui, tout à fait, par le recours de la fake news notamment. L'un des grands maîtres justement de ce recours aux fake news n'est autre que Vassili Gerasimov, qui est l'un des bras droits et chef d'état-major de l'armée russe, hein, faut-il le rappeler. Et donc tout cela se définit, d'après les experts américains, par l'élaboration de ce que l'on appelle un « sharp power », c'est-à-dire en fait un pouvoir très intrusif qui a recours précisément à ces formes de guerres asymétriques dont les Chinois sont passés maîtres, encore une fois. Hein. Et c'est là un véritable danger, comme je le disais tout à l'heure en introduction, à la veille de ces élections européennes, mais aussi un peu plus tard pour les élections américaines, voire françaises, bien sûr.
Philippe Lecor, merci Emmanuel Lacour d'avoir été avec nous. Philippe Lecor, on comprend bien que l'allure que prend la campagne présidentielle américaine, on voit que Donald Trump a changé de pied sur l'affaire TikTok parce qu'il déteste encore plus Facebook. Il trouve que Facebook lui est encore plus hostile. Mais on se souvient que Donald Trump, président, en 2020, avait déjà tenté d'agir contre TikTok.
Oui, absolument. Bah, vous savez que Trump est un personnage souvent insaisissable, notamment dans ses relations avec les puissances autoritaires. Mais effectivement, sous le conseil de ses collaborateurs, à l'époque, il avait tenté d'arrêter TikTok, même si TikTok n'avait pas le poids qu'il a aujourd'hui. Je pense qu'il n'aura pas le courage de le faire, en tout cas, enfin de militer pour une interdiction de TikTok dans les mois qui viennent, pour les mêmes raisons qu'il avait gagné les élections de 2016, vous vous en souvenez, grâce en grande partie à Twitter et à ses messages très agressifs contre ses adversaires, y compris à l'oral. Donc je crois que les choses ont changé. Ce que j'écoutais Emmanuel Lincoln avec beaucoup d'intérêt, il parlait de sharp power. En fait, TikTok est un peu à mi-chemin entre le sharp power et le soft power, puisque vous savez, le soft power, c'est l'art de convaincre un petit peu dans la douceur. Alors effectivement, s'il y a le Parti communiste chinois, s'il y a la loi sur la sécurité nationale, ça n'a rien de soft. Mais pour les 31% d'Américains qui écoutent, qui regardent les vidéos de TikTok, ça n'a rien d'agressif, etc. Et le pays est une démocratie où finalement on utilise tout un tas de moyens pour s'informer. Vous savez que malheureusement les grands médias sociaux ou traditionnels sont lus et écoutés par une minorité de gens. Et donc il y a la question de l'identité personnelle, du respect des droits de l'homme, etc. Donc les Chinois vont pousser, vont militer un petit peu pour ce cas. Alors, ce qui est assez amusant aussi, c'est que il y a aujourd'hui une liste de lobbyistes pro-chinois qui circulent à Washington, notamment des avocats, etc., et qui travaillent notamment pour TikTok et qui pourraient être interdits. En tout cas, ils sont mis à l'index actuellement. On parle d'eux, et il est possible qu'il y ait également une législation qui interdise de défendre les intérêts d'une puissance adverse. Un petit peu comme je le disais tout à l'heure. La loi en question dont on parle, qui pourrait donc passer au Sénat, qui pourrait qui interdit et qui met à l'index directement les médias travaillant pour ou appartenant à des puissances étrangères, notamment Chine, Russie, Iran et Corée du Nord.
Mais Philippe, il y a néanmoins un obstacle massif aux États-Unis, qui est vu à la fois comme une protection de l'individu et un rouleau compresseur, c'est le premier amendement sur la liberté d'expression. Et donc c'est évidemment utilisé, et en particulier par ce qu'il faut bien appeler la propagande, notamment du côté trumpiste, c'est-à-dire cette espèce d'univers de faits alternatifs. La vérité alternative qui a d'ailleurs été formulée au moment du mandat présidentiel de Donald Trump. Donc, en fait, TikTok s'installe dans cette espèce de litière.
Oui, alors effectivement, on pourrait imaginer qu'un candidat en difficulté pour tout un tas de raisons, parce qu'il y a des procès et parce que Donald Trump doit payer des frais d'avocat de plusieurs dizaines de millions de dollars, en tout cas fournir des avances, et ça lui sera difficile. On pourrait imaginer qu'il utilise TikTok comme revanche d'une certaine manière, mais si vous voulez, il faut quand même voir qu'il a aussi quand même besoin de la Chambre des représentants et du Sénat, que les républicains qui brandissent quand même l'étendard anti-chinois très régulièrement, je pense au sénateur Mark Warner, au sénateur Marco Rubio, tous ces gens sont persuadés qu'il y a une guerre sécuritaire, qu'il y a une concurrence totale partout et sur tous les domaines entre la Chine et les États-Unis. Everywhere, on every topic. Et donc, ces gens-là sont persuadés que TikTok est un outil anti-américain et donc qui va essaimer à travers la société américaine, etc. Donc, je ne pense pas qu'un candidat américain à la présidentielle, même Donald Trump, puisse se mettre dans les utiliser TikTok comme moyen de diffusion de ses idées, si on peut dire, et notamment vis-à-vis des jeunes qui de toute façon ne sont pas quand même la cible prioritaire parmi l'électorat pour Donald Trump. C'est plutôt Biden qui a besoin des électeurs jeunes, et c'est lui d'ailleurs qui avait fait une petite vidéo sur oui. TikTok, et c'est lui qui finalement va décider ou ne pas décider de signer cette loi si elle est passée par le Sénat, ce qui n'est pas encore sûr.
Sébastien Jean, on voit en fait que les réactions de Pékin, on l'a dit, sont relativement modérées, donc il y a eu, oui, méthode de voyou, mais on a l'impression que Pékin ne veut pas, même verbalement, céder à une forme d'escalade, tellement les tensions commerciales et l'interdépendance entre les deux premières économies mondiales est réelle.
Oui, je crois que c'est inhérent à ce jeu dans lequel il y a à la fois des tensions politiques très fortes et des forces d'attraction et économiques très fortes. Donc, la Chine sait bien qu'elle est largement dépendante aussi de ses débouchés à l'exportation pour la santé de son économie. Et je dirais cette dépendance, elle s'est même accentuée ces dernières années, dans la mesure où l'intensité des exportations du secteur manufacturier en particulier, l'excédent manufacturier chinois, a considérablement augmenté. Donc tout le monde dépend de tout le monde. C'est ça qui rend le jeu extrêmement complexe, d'une façon qui est souvent asymétrique, on l'a dit, aussi bien au niveau industriel qu'au niveau informationnel. Et donc, la question est de savoir où est-ce qu'on trouve un peu un terrain d'entente pour éviter une montée aux extrêmes qui serait dommageable pour tout le monde.
Mais l'Europe est dans une situation encore plus difficile de ce point de vue. On se souvient que l'année dernière, Madame von der Leyen a innové avec ce terme de dérisking, donc pas découpler les économies européennes de l'économie chinoise, mais essayons de diminuer le niveau de risque, qui est évidemment très très différent, par exemple, entre la France et l'Allemagne, mais on est piégé encore plus nettement. C'est que vrai. Les Américains.
C'est vrai, la spécificité européenne, elle est double. La première, c'est que l'Union européenne n'est pas un État, donc toute la coordination politique est beaucoup plus, la cohésion politique est plus problématique et plus difficile. De ce point de vue-là, l'Europe n'est pas taillée pour les relations de puissance. La deuxième, c'est que l'Europe est plus ouverte, en particulier plus ouverte que les États-Unis, et donc elle aussi plus dépendante de la pérennité, de la robustesse, la stabilité de ces flux d'échanges internationaux. Donc, on est dans cette dans cette situation spécifique. Et puis, par ailleurs, l'Europe n'est pas du tout au même niveau de puissance militaire que la Chine et les États-Unis, a fortiori. Et donc, elle essaie un peu d'exister comme troisième pôle stabilisateur. Mais c'est pas facile, effectivement, dans ce contexte pour l'Union européenne.
Et on l'a vérifié encore hier lors du Conseil européen s'agissant de l'aide à l'Ukraine. Benoît Loutrel, il est évident que les élections européennes en juin vont fournir au régime qui ne nous veulent pas nécessairement du bien l'opportunité, et ils l'ont déjà démontré précédemment, y compris sur les élections présidentielles françaises, l'opportunité d'essayer de diffuser toutes sortes de fausses informations, et on le voit déjà sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que les règlements européens que vous nous avez expliqués peuvent être efficaces, surtout si on les méconnaît?
Alors, moi je crois, il faut déjà noter, la commission von der Leyen, elle rentrera dans l'histoire. Elle est déjà rentrée dans l'histoire, elle est en train d'établir...
Là, vous faites plaisir à Thierry Breton, parce que c'est lui qui a beaucoup poussé, et c'est d'ailleurs dans son domaine de responsabilité.
C'est parfois une vision française. La vision européenne, c'est que c'est l'engagement de toute la Commission européenne qui a poussé des textes pour rétablir la souveraineté numérique de l'Union européenne. C'est le règlement sur les services numériques, c'est le règlement sur les marchés numériques, c'est le règlement sur les données, c'est le règlement sur l'intelligence artificielle, c'est le règlement sur la publicité politique. Donc l'Union européenne est en train de s'affirmer et est en train d'affirmer sa souveraineté numérique dans ce monde globalisé.
Mais comment est-ce très concrètement,
sur le règlement sur les services numériques, on le mobilise d'ores et déjà. La Commission européenne, en ce moment, a mis en consultation publique une recommandation aux grandes plateformes qui va être adoptée au tout début du mois d'avril, qui va les mobiliser, qui va leur demander de faire face à la multiplication des deepfakes avec les intelligences artificielles génératives qui sont apparues. Nous, au niveau national, nous mobilisons, et c'est le cadre européen nous donne un cadre de mobilisation pour mobiliser les forces de ce qui font les démocraties. Et ce qui fait la démocratie, c'est à la fois d'avoir des capacités institutionnelles des États souverains en Europe, mais aussi de mobiliser la société civile, de mobiliser le monde académique, de mobiliser le monde des médias. Et donc, avec l'action de l'Union européenne, on finance des programmes de vérification des faits, les vérificateurs de faits, qui financent l'AFP et tout le réseau de partenaires de l'AFP le debunking des fausses informations.
Débusquer.
Merci. Débusquage des fausses informations. J'ai mentionné que l'Union européenne a ouvert une procédure d'infraction vis-à-vis de TikTok sur le non-respect d'un certain nombre de règlements. Cette étude, elle est aussi fondée sur le fait qu'en novembre, Transparency International, en s'appuyant sur des travaux de AI Forensic, qui est une ONG qui est née en Italie, qui est dirigée actuellement par un Français, et qui travaille justement à débusquer aussi des failles dans les algorithmes, des comportements addictifs, et c'est ça qui nourrit l'action publique. Et donc, ce que l'Union européenne a mis en place, c'est une capacité, c'est d'utiliser la force des démocraties. C'est la question qu'on se pose depuis le début, en disant, mais comment on fait face à ces mastodontes que sont les grandes plateformes globales, qu'elles soient américaines, X Twitter, ou qu'elle soit chinoise, TikTok. Est-ce qu'on fait des régulateurs monstrueux? Mais ça, c'est la négation de la démocratie. Et donc, on a fait des régulateurs qui catalysent la réaction de nos sociétés pour arriver à renforcer l'immunité de nos démocraties à ces interventions.
Donc... Mais pardon, ça pose quand même un problème aussi sur la frontière. Imaginons un deepfake produit par une société américaine qui serait convertie aux arguments de Monsieur Trump. Bon, donc il y a ce deepfake disons, d'origine américaine et un deepfake chinois qui dit Vladimir Poutine adore les enfants et c'est le petit père des peuples, pour reprendre une formulation qui a vécu. Comment est-ce que nous autres Européens nous traçons en quelque, nous démarquons? On interdit les
mais,
deux.
Mais on a tous dans cette pièce grandi dans un monde où on nous a appris à nous méfier du petit père des peuples et on nous a appris que le régime soviétique savait trafiquer les photos, faire disparaître les personnages au fur et à mesure où ils étaient bannis du régime soviétique et on en a retenu, on a développé un sens critique. On nous a appris à avoir un sens critique vis-à-vis de la culture américaine qui pouvait avoir un rouleau compresseur et on est en train de refaire la même chose, c'est l'éducation aux médias et à l'information, où il faut exposer les gens en disant « mais oui, ça existe les deepfakes, il faut montrer aux gens comment, vous savez, avec l'intelligence artificielle, prendre un personnage qui sera connu des jeunes, et montrer que par l'intelligence artificielle, on sait lui faire parler en chinois, en russe, et que non, c'est faux, ça n'existe pas, c'est une création artificielle. Et les jeunes générations sont tout aussi intelligentes que ce que nous étions à leur âge, et vont développer un sens critique nouveau pour faire face à ce monde numérique.
Laurence Allard, précisément, vous étudiez encore une fois les comportements et des comportements d'addiction s'agissant des très jeunes utilisateurs de ces réseaux et en particulier de TikTok. Comment améliorer l'éducation? Comment modifier les comportements?
Oui, quand on parle d'addiction, c'est un peu trompeur parce que dans le monde médical, l'addiction, elle est souvent liée à des substances. Là, on est plus dans des addictions, si on reprend le terme, comportementales, puisque c'est des individus qui sont très captivés par justement une application, ses contenus. Donc, on est plus dans de l'attachement. On est captivé par TikTok plus qu'on en est addict. Et donc, finalement, ça renvoie plutôt les individus à eux-mêmes, dans leur relation à eux-mêmes, avec ce qu'ils apprécient, ce à quoi ils ont du mal à se détacher. Et donc, c'est d'autant plus problématique vis-à-vis de jeunes qui sont en effet les publics les plus majoritaires sur TikTok, avec cette injonction à s'auto-responsabiliser très jeune, alors que les adultes eux-mêmes passent quasiment une heure par jour dans le vortex de TikTok. Donc c'est assez complexe d'injoncter cette auto-responsabilisation donc des plus jeunes. Donc c'est vrai qu'il y a un travail du côté de l'éducation, des parents et puis de la communauté éducative, pour justement non pas changer les comportements, mais apprendre justement à bien regarder, à bien écouter, à bien utiliser en fait TikTok dans à la fois son ouverture, mais également son renfermement et avec cet effet de boucle qui en effet capture votre attention à l'infini, ad nauseum, avec cet effet ritournel de propagande très très vite possible. Voilà.
Sébastien Jean, quels peuvent être les outils commerciaux et économiques accompagnant cet effort de réglementation européen, qui est encore une fois unique au monde, mais qui fait peur aussi, semble-t-il, et notamment en ce qui concerne l'intelligence artificielle, qui est non pas l'étape d'après, mais qui est déjà l'étape d'aujourd'hui, sans même parler du quantique, ça ce sera encore un autre univers. Comment est-ce que sur le plan des réglementations du commerce international, et en particulier vu d'Europe, comment contribuer en fait à cette éducation du consommateur?
Oui, c'est un domaine assez nouveau par rapport à tout ce qui est traité, accord et règles du commerce international. Un domaine parce que toutes ces règles, elles ont été conçues autour des échanges de marchandises et là, elles s'appliquent très mal. À la fois pour réglementer, même souvent pour mesurer. Par exemple, on a dit que dans l'ombre derrière les applications chinoises qui ont beaucoup de succès, c'est derrière aussi de la fast fashion chez Temu, Et puis, d'ailleurs, Alibaba sous toutes ses formes, ce qu'on voit aussi, c'est que même dans les statistiques, par exemple, de commerce extérieur, ces plateformes, elles aboutissent à avoir beaucoup d'expéditions de petits paquets internationaux qui sont très mal mesurés dans les statistiques. Donc, ça fausse même nos instruments de mesure. Donc, on est un peu dérouté par rapport à ça, d'où l'importance des réglementations nationales et de la façon dont on peut imposer un cadre normatif sur l'activité de ces plateformes chez nous. Et puis, je le disais tout à l'heure, il y a la question quand même de la réciprocité qui se pose sur ces échanges de données, parce que finalement la Chine impose, et d'autres pays évidemment derrière, beaucoup d'obstacles à l'entrée, et nous on est très réticents à, évidemment pour des raisons bien compréhensibles, à en imposer nous-mêmes, et ça crée un contexte complètement asymétrique. Donc voilà, il y a à la fois un aspect nouveauté où les instruments traditionnels sont relativement inopérants, une influence des réglementations qui est potentiellement très grande parce que justement ce sont des secteurs qui sont natifs, internationaux, qui sont globaux d'emblée, je dirais, nativement globaux, on dit parfois.
Avec les composants qui jouent évidemment un rôle...
Absolument, ce qui signifie que les réglementations qu'on peut leur imposer, dans un certain nombre de cas, même si elles sont sur le marché européen, en fait, elles vont s'imposer à leur activité au niveau mondial. Voilà. Maintenant, ça n'est pas forcément une réponse complètement... Enfin, c'est pas une réponse qui comble, disons, les faiblesses industrielles, entre guillemets, de l'Europe dans ces domaines, qui sont une vraie préoccupation, qui, à mon avis... pour le coup, sont beaucoup liés au problème de fragmentation dans les services du marché unique. C'est ça aussi qui fait beaucoup obstacle en Europe au développement de plateformes qui sont en concurrence avec les géants américains et maintenant chinois.
Benoît Loutrel, il y a aussi dans la réglementation européenne un volet très important qui est de permettre aux chercheurs, comme Sébastien Jean par exemple, un accès aux données, alors que le principe des GAFAM... bon, tout cela, Silicon Valley, une culture démocratique, mais l'argument, l'impératif, le critère est d'abord commercial, et puis évidemment, dans le système chinois ou dans le système russe, des critères qui n'ont rien à voir avec une relative forme de transparence. Donc, est-ce que cette réglementation européenne peut imposer à ces géants une forme... sinon de transparence, en tout cas d'accès, enfin de...
C'est le cœur du problème et c'est le cœur du règlement sur les services numériques. Le cœur du problème parce qu'aujourd'hui, on fait face à une asymétrie d'information vis-à-vis de ces grands acteurs qui est insupportable. Et c'était le point de départ de la démarche politique des États membres qui a amené à porter ça au niveau européen en disant on ne sait pas quand on fait face à ces désordres informationnels. Est-ce que les grandes plateformes font partie de la solution ou est-ce qu'elles font partie du problème ? Et donc, et on ne le sait pas parce qu'on n'arrivait pas à les observer. Et donc, le cœur du règlement, la disposition sans doute la plus puissante, c'est son article 40 qui pose le droit des chercheurs académiques de toutes les universités d'Europe et d'ailleurs hors d'Europe de demander à accéder à des données individuelles dans le respect du RGPD bien évidemment,
c'est-à-dire le respect de
la vie privée et le fait que l'usage la finalité de l'accès est uniquement pour vérifier est-ce que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est respectée sur ces plateformes. Et c'est un article qui va permettre de petit à petit d'inverser cette asymétrie d'information et donc de former des cerveaux, de former des chercheurs, hommes et femmes, qui soient compétents en numérique, qui aient accès aux données, qui arrivent à mettre en évidence quels sont les effets pervers que peuvent avoir ces plateformes sur le fonctionnement de nos sociétés, qui arrivent à contredire les plateformes et à ce qu'on arrive à vérifier que ce qu'elles nous disent est exact ou non, et qui arrivent aussi à mesurer ce qu'elles ne connaissent pas, qui sont les effets collatéraux de leurs logiciels, de leurs algorithmes sur nos sociétés. Et donc c'est vraiment le cœur du règlement parce que ça permet, encore une fois, de toucher les jeunes, de créer du savoir, de le mettre au service de l'intérêt général et de mobiliser la force des démocraties qui est d'être décentralisée et d'avoir des citoyens qui sont acteurs de leur futur.
Oui, mais le propre de cette industrie, c'est d'avoir toujours un temps d'avance. Et donc, évidemment, tous ces groupes vont trouver des parades. Ils vont continuer de fabriquer des algorithmes.
Merci
de plus
pour
en
cette
plus.
Question, parce que c'est une des leçons qu'on a appris. La mobilisation sur l'espace numérique a commencé dans les États membres. Et en France, on a commencé à faire des lois. Et grâce à ces lois, on a appris qu'on pouvait faire mieux. Et notamment, c'était les premières lois de lutte contre la manipulation de l'information, contre la haine en ligne. Et elles ont abouti au règlement sur les services numériques. On a retenu en disant qu'il faut faire très attention de ne pas être trop précis dans les lois pour essayer d'avoir des lois qui règlent le problème d'hier, mais d'avoir des lois évolutives pour faire face au problème qu'on aura demain. Et le règlement sur les services numériques est très intéressant parce que quand il a été négocié, on ne se réveillait pas tous les matins en disant qu'on allait nos sociétés allaient disparaître à cause des IA génératives. Le sujet n'était pas dans le débat. Vous relisez le règlement, le mot n'apparaît jamais. Et pourtant, le règlement est conçu pour être agile et adaptable, et on peut s'en saisir pour faire face aux problèmes d'aujourd'hui et de demain.
Donc on est les meilleurs.
Il faut être enthousiaste. Il faut être enthousiaste. On est armé pour mais maintenant il faut se mobiliser et il faut aussi des financements pour la recherche.
Philippe Lecor, la conclusion vous appartient. Vous revenez de Washington et c'est à Washington que se joue en tout cas, mais on revient au court terme, c'est-à-dire le niveau législatif, le niveau politique et aussi aux États-Unis où tout devient très vite juridique, sinon judiciaire, le court terme. Donc, quelle est la probabilité, selon vous, que TikTok soit interdit en pleine année présidentielle sur le territoire américain ?
Moi, le sentiment que j'ai, si vous voulez, après avoir discuté avec pas mal d'experts et d'hommes politiques américains, c'est que ce n'est pas le moment, en fait, d'interdire cette application et que, finalement, le président sortant, qui est en difficulté, qui n'a pas une très haute cote de popularité, c'est le moins qu'on puisse dire, vers les 37%, et qui veut être réélu, la coalition des anti-Trump se rassemble et, finalement, se mettre à dos tous ces électeurs, ce n'est pas une bonne idée. Alors évidemment, cela va à l'encontre des intérêts de sécurité nationale. Et comme vous savez très bien, on est en pleine sécuritisation de l'économie, si j'ose dire. Securitization, plutôt un mot anglais, mais on voit bien ce que ça veut dire. La sécurité nationale prend le pas sur l'économie, sur le business, sur beaucoup de choses, y compris dans une économie libéralisée comme les États-Unis. Donc je pense que le président Biden va faire traîner. Si bien sûr le Sénat décide de passer cette loi, il sera obligé de la signer et il peut la signer aussi pendant la période de transition pendant laquelle il sera, si vous voulez, entre l'élection et la prise de fonction. Mais je crois que pour l'instant, d'ici novembre, il me semble exclu que le dossier avance. Parce que d'une certaine manière, la Chambre des représentants a rendu service au président Biden et peut-être que le Sénat, qui est d'ailleurs contrôlé par les démocrates, rendra également service au président Biden en faisant entraîner la signature et le vote de cette loi. Rappelons qu'il faut quand même 60 sénateurs sur 100 pour que ce texte passe.
Et d'après un tout dernier sondage qui est sorti, je crois, dans le New York Times il y a 2 ou 3 jours, 31% des Américains, 31% seulement, seraient pour l'interdiction de TikTok. Donc évidemment, il s'agit du quart d'Américains, un peu plus du quart, qui n'utilisent pas TikTok. C'est probablement ça l'explication de ce sondage. Eh bien, merci à vous cinq. Philippe Lecor, je recommande vivement le papier que vous avez publié ce mois-ci dans la revue Études, l'axe Pékin-Moscou vue d'Europe. Et vous avez publié aussi un papier sur les élections, une analyse des élections à Taïwan dans la revue Le Grand Continent. Sébastien Jean, Vous avez écrit avec Thomas Gomard, qui dirige l'IFRI, une note sur le découplage impossible, donc on est en plein dans notre sujet. Découplage impossible, coopération improbable, les interdépendances économiques à l'épreuve des rivalités de puissance, une note qui date du mois de novembre dernier. Laurence Allard, vous avez dirigé un ouvrage qui s'intitule « Écologie au pluriel du smartphone » aux éditions Le Bord de l'eau, c'était en 2022. Je n'oublie pas, bien sûr, Emmanuel Linco, un livre très intéressant sur le très grand jeu Pékin face à l'Asie centrale, aux éditions du Cerf. Ça a été publié en novembre dernier. Et évidemment, je n'oublie pas de vous remercier, Benoît Loutrel. Les publications de l'ARCOM, ce sont les règlements et les règlements européens pour lesquels vous avez plaidé ce matin. À la réalisation, comme chaque samedi, Luc-Jean Reynaud, à la technique d'Ali Yaha, Mercia Nezic et la documentation de Radio France m'ont aidé à préparer cette émission que vous pouvez retrouver, bien sûr, sur la plateforme de France Culture et de Radio France. Vous pouvez la podcaster. Et voici, nous sommes samedi, voici Nora Hammadi, Sous les radars. Très bon week-end et à samedi prochain.